Mais c'est Mars qui parle. Et c'est le bélier qui parle. C'est Mars. Mais c'est le Mars face à un objectif précis. Le Mars du scorpion, attention, c'est la même énergie. Mais alors, cette fois-ci, elle entre non pas dans l'incarnation, attention. Elle n'est pas intéressée, celle-là, d'abord à forger l'individualité et à la développer, la maintenir, la soutenir et la tailler, la développer, la sculpter. Non, non. Le Mars, l'énergie martienne dans le scorpion est une énergie évidemment entrante aussi. Et elle est entrante dans quoi? Alors elle est entrante dans l'autre facteur, le complémentaire de l'individualité, c'est-à-dire le collectif. Le scorpion, c'est le pont, la roue, le rayon de la roue, c'est le rapport, l'agent de liaison entre l'individu en soi et le collectif en soi. Quel individu sans le collectif? Quel collectif sans l'individu, puisqu'il est fait d'individus? Et que vaut le collectif sinon ce que vaut la somme des individualités qui le composent avec un plus par surcroît? Mais c'est ça, le collectif. Et alors, vous formez un enfant. D'abord, êtes-vous sûr que c'est un individu, cet enfant? Qu'il n'est pas l'image, l'ombre de la famille, ou l'ombre d'un village, ou l'ombre de... Qu'il n'est pas une machine, un robot. Vous formez un enfant. Pourquoi vous formez cet enfant? Pour qu'il aille à l'école. Pourquoi aller à l'école? C'est qu'alors, à sa majorité, il entre dans ce qu'on appelle la société. Donc, il entre dans le collectif. Vous préparez deux choses. Une économie interne de l'individu, une formation de l'individu pour ensuite qu'il puisse, en tant qu'individu, et en gardant toujours les prérogatives, les privilèges et obligations de l'individu, participer à une collectivité. Et la plus grande des collectivités pour l'être humain, c'est nécessairement l'espèce humaine elle-même. Alors, le scorpion, huitième rayon de la roue, l'énergie martienne du scorpion sert précisément à animer les moyens et la fonction par quoi l'individu est lié et devient participant, entre dans le collectif humain de son espèce. Voilà le scorpion. Tandis que le poisson, alors ce n'est plus l'énergie martienne ici, c'est de nouveau le grand signe d'eau, avec tout ce qu'il représente. L'inconscience est toujours représenté par l'image de l'eau. Pensez à toutes les significations que peut évoquer l'eau dans votre esprit. Tellement riche du symbolisme astrologique, du symbolisme ésotérique, et vous verrez que l'inconscient dans le poisson, c'est l'inconscient non seulement collectif de l'espèce, non seulement collectif en quelque sorte, je dirais même de plusieurs espèces de formes de la vie, mais du monde entier, de l'univers entier. Car c'est par le signe du poisson, c'est par l'inconscient collectif universel, alors universel, puisque là, et c'est seulement là que nous allons trouver l'espace vital qu'il nous faut parcourir pour atteindre ce que nous appelons les sommités métaphysiques, c'est-à-dire le monde divin, le monde de Dieu, le monde de l'absolu au-delà, et par contre-coup, par contre-pôle, le monde, l'abîme du chaos qui est aussi représenté dans le signe des poissons. Le chaos est parti dans son langage symbolique. Dans le choix de ce terme, dans ce qui est derrière le terme chaos, nous sommes carrément dans le signe des poissons. L'inverse, le pôle sud du signe des poissons. Tandis qu'au contraire, dans la mystique transcendante, nous sommes dans le pôle nord du signe des poissons. C'est ce que je m'avais expliqué tout à l'heure. Donc, je parle aux techniciens maintenant, dire que Pluton serait le maître du scorpion, ce serait dire qu'il actionne le piston qui nous fait entrer. C'est entrer l'individu dans le collectif humain. Si ça, c'est la définition spécifique du scorpion, alors il va de soi Le Pluton ne peut avoir, ne peut pas être le régisseur de cette fonction capitale. L'insération, la participation, comme la minute devient l'heure, et la seconde la minute, l'individu devient membre de la collectivité et devient un être collectif dans le scorpion. Alors là, Pluton n'a rien à y voir. Tandis qu'au contraire, c'est ce que j'ai envie de montrer ce soir, il a tout à dire dans le signe fondamental, archétype de tous les signes dont les autres ne sont que le dénombrement, le signe des poissons. Voilà pourquoi là, il est l'un des pôles du poisson, alors que Neptune est l'autre pôle, de sorte que les deux sont alternativement et jamais ensemble, puisqu'ils vont à piston contraire, dans le sens contraire l'un de l'autre, et que leur jeu mutuel égal d'intensité serait la neutralisation totale de la vie de la douzième, du douzième rayon de la roue, la douzième maison, le signe des poissons. Du moment que le signe est vivant, c'est que l'un de ces deux pôles est en fonction. Piston du pôle nord, piston du pôle sud. Pôle sud Pluton, pôle nord Neptune. Ces deux pistons étant en jeu alternativement, notre qualité en nous de cette douzième maison ou de ce signe sur la pointe de l'une de nos maisons va se faire sentir immédiatement. Je n'insiste pas là-dessus, cette question du Scorpio. Je ne veux pas entrer maintenant dans quelques petites manifestations, un petit étalage d'informations spéciales pour quelles raisons on a donné au scorpion, la pensée que Pluton avait fait avec le scorpion, parce qu'on a assimilé le scorpion avec la mort. Ben oui, évidemment. Mais assimiler, c'est une vision tout à fait superficielle que de considérer la mort comme un tel désastre qu'il faille mettre Pluton. Ou alors d'autre part, de la considérer comme une telle métamorphose, si l'on accorde naturellement à Pluton des valeurs de métamorphose en soi, on comprend qu'on le mette dans le signe du scorpion. Mais il y a un critère souverain. Il y a un seul maître, c'est l'expérience. Appliquez, donnez-vous la peine, une fois pour ceux d'entre vous qui s'appuient sur votre connaissance de l'astrologie, comme sur un berger qui vous aide à mener votre troupeau et vous-même à la bergerie. Donnez-vous la peine dans votre thème, avec ceux que vous connaissez bien, d'appliquer au scorpion, d'invoquer le Pluton comme vous auriez invoqué le Mars, mais alors pas le Mars, mais le Pluton, pour la maison que commande le scorpion dans votre thème, et voyez si ça joue. Au contraire, employez ce que la tradition parfaitement avait raison de dire, Mars, et voyez si ça joue. Et vous verrez que ça joue avec Mars infailliblement. Par la position de Mars dans votre thème, par la maison de Mars surtout où il est, par les aspects qu'il a, telle sera la maison que commande dans votre thème le scorpion. Par contre, prenez le poisson. Ceci est assez nouveau en France pour l'astrologie des Français. Et je vous supplie, je vous implore d'aller y voir de très près vous-même. Ne me croyez pas un seul instant, vérifiez ça vous-même par l'expérience, mais donnez-vous-en la paix. Et ça en vaudra la paix, ce sera une découverte du tonnerre. Surveillez le signe que commande, la maison que commande le poisson dans votre tête. S'il n'y a pas de planète dans la maison, ça n'a aucune importance. Au contraire, l'expérience en sera plus nette et se détachera mieux. Lorsque votre Pluton parle dans votre tête, lorsqu'il a des aspects qui en ce moment-là sont en pleine vigueur, il fera son travail là où il est et sur les planètes et les maisons que commandent ces planètes, c'est à faire entendu. Et suivant le nombre des aspects, vous verrez la démolition de plusieurs secteurs ou la réduction ou enfin la secouer. Mais vous verrez aussi que jamais votre poisson dans votre thème reste neutre et indifférent. Et que souvent, Chose curieuse, il est très miné par cette activité, très termité, très grignoté par sa pêche. Ouais. Surtout, c'est très visible lorsque le poisson commande la sixième maison, qui est celle de la santé, celle de l'équilibre physiologique, celle du corps. Et vous verrez que lorsque le Pluton n'a rien à faire avec cette maison, mais lorsqu'il est fort dans le thème, surtout avec, par exemple, en quadrature de Jupiter, ou avec le Soleil ou la Lune, eh bien, vous verrez qu'à ce moment-là, votre santé elle-même connaît un crack relatif, mais certain. Quand vous pensez au poisson, il vous faut chercher immédiatement la position de la planète Neptune dans votre thème. C'est le grand maître des poissons. C'est celui qui gagne la bataille pour finir. Cherchez où la planète se trouve, par maison dans le thème et par aspect, vous aurez la qualité de votre signe des poissons. Mais cherchez aussi où se trouve votre Pluton, par maison et par aspect, et vous aurez aussi et également la signification de la maison que commande chez vous le signe du poisson. Pour moi, c'est une affaire mathématique. Ça ne fait plus l'ombre d'un doute. Voilà des années que je pratique ça comme ça. Et je n'en ai jamais, c'est une des choses qui pour moi aujourd'hui, depuis longtemps, ne me tracasse plus dans la recherche astrologique. C'est une affaire réglée, définitive, je ne perds plus une minute pour la vérifier. Elle se vérifie automatiquement de thème en thème à mesure que je procède dans la pratique. Mais il ne faut pas perdre son temps à théoriser et se dire « mais tel livre dit, mais tel autre astrologue dit ». D'accord, mais vous avez votre propre tête, allez-y voir vous-même. Vous donnez assez de peine pour comprendre l'astrologie, pour comprendre qui vous êtes dans votre propre thème. Vous passez des heures d'études, des années d'études, des mois d'études, des heures tous les mois, etc. Vous suez, permettez le mot, sur des quantités de thèmes quelquefois. Eh bien, alors maintenant, ne vous dispersez pas. Faites une recherche systématique sur ce sujet capital. Vous ne le regretterez pas et ce sera une révélation. Si vous ne l'avez pas cru, ce sera une révélation. Et ce sera une révélation d'autant plus grande, alors. C'est que nous ne pouvons pas échapper, bien entendu, puisque nous sommes intelligents, que nous avons une âme et que nous aspirons quand même à une vision globale des choses. Et nous voulons avoir un critère de valeur universelle, autant que particulière. C'est la philosophie. La vision mondiale du monde, c'est la vision du monde, la philosophie de l'astrologie, qui va se dégager ainsi mieux que de n'importe quelle autre façon. C'est à quoi maintenant je viens. Ceci dit, 1er décembre, le cercle de l'heure, le cercle de la minute, le cercle de la seconde. Il faut 60 fois cela pour faire ça. Il faut 60 fois ça pour faire ça. Translation des valeurs. Translation des grandeurs. La descente de l'heure à la seconde. La montée de la seconde à l'heure qui doit toujours, la seconde doit passer par la minute. Il n'est pas question pour une seconde de passer par un, to bypass, de faire un détour à côté de la minute. Ou d'ignorer la minute en passant à travers elle. Une seconde perd son identité en tant que seconde dès qu'elle est entrée dans la minute. Elle a donné son âme, sa valeur à la minute. C'est ça qui fait la substance de la minute. Le don de 59 secondes à la minute. Et la minute, alors, est digne de faire 60 minutes pour donner son âme à l'heure. C'est ainsi que ça va. De proche en proche, de grandeur en grandeur, de l'infinitésimal à tous les systèmes solaires eux-mêmes. Et restons dans le nôtre, de l'infinitésimal de la Terre à l'entier de la Terre, de la partie à l'entier de la Terre et de la partie de la Terre à l'entier solaire. Toute l'astrologie n'est pas autre chose que le jeu du rapport entre l'entier et la part. Voici l'entier, voici la part de l'entier. Voici ici une part de cet entier, parce que ceci c'est un entier par rapport à cette part, ceci c'est une part par rapport à cet entier. Par conséquent, tout entier est une part pour un entier plus grand que lui, et tout entier est un entier seulement pour une part qui est plus petite que lui. Maintenant, ça c'est fondamental. Il faut vous faire entrer ça dans la tête par tous les moyens imaginables, par des exercices réguliers, dessins sur papier, parce que vous n'aurez jamais, mais jamais, l'intelligibilité réelle, authentique, intellectuelle de l'astrologie. Tout son symbolisme réel, toutes les lois par lesquelles l'astrologie fonctionne, vous ne les saisirez pas dans leur sens, vous n'aurez pas le fil de Diane sans comprendre ce simple schéma-là. Tout est là. Tout est là. La part et l'entier. On me demandait l'autre jour, mais est-ce que l'homme est un entier? Mais naturellement, il est un entier. Puisque l'heure peut être un entier, puisqu'une minute peut être un entier, à cause de plus forte raison, un organisme unitaire, une unité, une entité, l'entité humaine, est un entier. Mais c'est un entier relatif. Il est fait lui-même de parts, n'êtes-vous pas fait d'une série de parts, n'êtes-vous pas une société de parts, vous-même. Est-ce que même votre psyché n'est pas une société, qu'on appelle le corps du Christ? Mais qu'est-ce que c'est que le corps du Christ? Le Christ est un entier, le corps du Christ ce sont les parties de l'entier. Et l'Église universelle, l'Église militante, l'Église triomphante, mais ce n'est pas autre chose que les parties convergent vers leur entier, qui est leur fin en même temps, leur point de départ et leur point d'arrivée, l'alpha et l'oméga de la situation. Voilà ce qui reste comme une procédure intellectuelle que, que j'ai toujours eu devant les yeux, lorsque je me cassais la tête, oh combien de fois, pour saisir le symbolisme des planètes, la façon dont elles jouent, pourquoi elles jouent. Pourquoi elles doivent jouer? Et pourquoi celle-là et pas une autre? C'est ça qu'il faut savoir. Vous avez le triangle équilatéral. Et dans le triangle équilatéral, vous le divisez en deux. Comme ça, comme ça. C'est le triangle équilatéral. Ici, vous avez ce qu'on appelle la part. Et là, vous avez ce qu'on appelle le reste. Ceci, le triangle lui-même, représente l'entier, le cercle. Mais le cercle se divise. Et une part est déjà achevée, et voilà pourquoi elle est représentée par le cercle solaire. L'autre qui n'est pas achevée est représentée par la Lune, ici. Alors, qu'est-ce que ça représente ici, la Lune? Ça représente ce qui reste encore à achever pour atteindre l'entier complet. Donc, le soleil représente ici une part, la lune représente le monde du reste avant d'atteindre le nouvel entier, entre la minute et l'heure. Nous sommes maintenant à 14 minutes. Mais entre 14 minutes et l'heure, il faut combien de minutes encore? Il en faut 36, n'est-ce pas? 46. Alors, ces 46 minutes représentent le reste. Et si maintenant vous transposez ça sur le plan universel, le plan, alors, d'un mot que je n'aime pas trop parce qu'il est vraiment trop vague et trop mal employé, sur le plan cosmique. Alors, disons le plan universel, le plan du monde. Vous comprendrez que ces fameuses 46 minutes qui restent entre la 14e minute et l'heure, 60 minutes, n'est-ce pas, représentent exactement ce qu'on appelle dans toutes les religions la mère divine. C'est la mère divine, c'est dans la religion catholique, c'est la Sainte Vierge. La Sainte Vierge représente quoi? Psychologiquement, essentiellement. Métaphysiquement, essentiellement, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente ce qui est entre nous et Dieu. Elle nous indique le chemin qu'il nous faut parcourir pour arriver au Père Céleste. Il a engendré la mère, comme il a tout engendré. Puisque l'engendrement, le principe créateur, ce qu'on appelle ici, on va toucher du doigt ce mystère qu'il ne faut presque pas toucher, qu'on appelle la création. Mais qu'est-ce que c'est que la création? Nous pouvons maintenant voir schématiquement exactement ce qu'il faut entendre derrière cela que nous connaissons, que nous sentons, mais que nous ne définissons qu'à condition de nous contredire. Le pouvoir de l'entier de se diviser en départ. Que l'heure se divise en des minutes, que la minute se divise en des secondes. Ce principe générateur, c'est le symbole de Neptune. Neptune, c'est ça, le principe générateur qui descend du cercle, ou du demi-cercle dans le symbolisme de Neptune. La rivière qui sort de la cité divine de l'Apocalypse, mais c'est précisément ce qu'on appellera le principe masculin créateur. C'est précisément parce que l'entier veut descendre vers la part, puis de la part veut descendre à une part plus petite encore que la précédente, et ainsi de suite. C'est à cause de ça qu'il y a ce qu'on appelle le monde en manifestation, c'est pas autre chose. C'est la présence de l'entier dans la part, qu'on appelle la présence de Dieu en nous. C'est pas autre chose que la présence de l'entier dans notre part, de cet entier. Ça ne veut pas dire que l'entier tout entier est dans l'autre part, ce serait une absurdité. Car l'entier peut être dans un milliard de parts de lui-même, sans avoir rien perdu de lui-même, et donnant toujours la même tonalité et le même calibre de la part de son entier à chacun. Voilà la géométrisation de la mystique, de l'expérience mystique, de l'expérience religieuse. Et c'est la même expérience que nous appelons l'expérience anti-religieuse, ou si vous voulez, l'expérience diabolique. Ce sera la même idée. Je la prendrai tout à l'heure. Je la prendrai tout à l'heure lorsque je parlerai ici, alors, du grand symbole Neptune-Pluton, l'entier et la part. Oui, je reviens à la mère divine. Elle nous prend dans ses bras. Nous sommes donc des individualités, une affaire établie. La Sainte Vierge n'est pas là pour rien. Elle a quelque chose dont il faut qu'elle s'occupe. Et nous, c'est l'individu, c'est le principe de l'individu. Elle est une collectivité déjà d'individus. Elle représente un monde de part. Oh, elle représente bien plus que ça, mais beaucoup plus que ça. Parce que alors elle est représentée ici comme celle qui descend de l'entier divin, à la part que nous sommes. Et c'est précisément parce qu'elle donne par l'ampleur de ses bras le champ d'action de l'instinct religieux dans l'individu qu'elle le conduit littéralement comme une mère le doit. Elle conduit cet être individuel vers ce qui va dépasser et lui-même et la mère, c'est-à-dire le Père Céleste, qui permettra au fondateur du christianisme de dire « Moi et le Père, nous sommes un ». Le symbole de ceci, c'est ça. Le soleil, l'être, l'individu, est le grand soleil, représenté par le demi-cercle, qui est le Neptune dans chacun de nos thèmes, représentatif, relatif dans nos thèmes, de l'archétype de l'entier divin, dont nous sommes nécessairement une part, autrement dit, nous ne serions pas là, nous ne serions pas vivants, et certainement nous ne serions pas les êtres que nous sommes. Je continue. Je passe de ce chapitre-là, développant cette fameuse théorie de l'entier et de la part et du reste, car naturellement, il y a donc la part qui est déjà faite 14 minutes, c'est un acquis. Alors, tout ce qui est acquis est masculin, tout ce qui est à acquérir est féminin, d'où la puissance du principe féminin dans le monde. Tout ce qui est à acquérir par rapport à un entier donné par une part qui est proprement partie de cet entier-là, tout ce qui est encore à acquérir, c'est le féminin pour la partie qui ne l'a pas encore acquis, mais qui a déjà acquis une partie de cet entier. Et tant qu'il n'aura pas atteint la totalité de l'entier, il aura encore à se servir et à dépendre du reste. Et quand il aura épousé ce reste jusqu'à la fin, il n'y aura plus de reste, il n'y aura plus de part, il y aura le nouvel entier. C'est l'apothéose de l'androgyne archétypique. Où il n'y a plus le masculin qui est le passé, le féminin qui est l'avenir, mais il y a l'éternel présent de l'entier qui les a pris entièrement en lui-même. Et voilà pourquoi, incidemment, dans le Nouveau Testament, Jésus pouvait dire, mais au ciel, il n'y a pas de mariage, ni on ne donne pas des hommes et des femmes en mariage dans le ciel. Parce que quand il employait là le terme « ciel », il l'entendait comme un entier qui avait dépassé la nécessité du temps. Et tant qu'on est dans le temps passé, c'est le masculin, le temps futur, c'est le féminin. Par conséquent, le mariage des deux, c'est le présent. Mais lorsqu'on aura passé au-delà de la division du temps, on aura atteint précisément, archétypiquement, on aura atteint cette unité dans le présent. Il n'a plus à se découper ni en passé ni en avenir. Et ça, c'est le moment astrologiquement où Neptune, représentant la Sainte Vierge, précisément le reste qu'il nous faut encore acquérir avant d'arriver à l'entier. C'est pour ça que Neptune est exalté dans le Sagittaire, qui est le signe divin par excellence. C'est pourquoi Jupiter travaille. C'est formidable de penser que le Neptune du poisson, il travaille lui-même à l'exaltation de Vénus, et que Jupiter lui-même travaille uniquement pour l'exaltation de Neptune et la Lune. Pour l'exaltation de Jupiter, et la logique de l'enchaînement, de l'emboîtement de ces compartimentages de valeurs, c'est quelque chose, c'est une jouissance intellectuelle et spirituelle qui n'a pas de nom. Bon, je passe. Je passe maintenant à un tout autre secteur, et j'attire maintenant votre attention sur ce facteur ici qui est colossal. Passons maintenant au principe de l'identification. Attention maintenant, c'est très grave ça psychologiquement. L'identification. Prenez vos dictionnaires. Prenez vos ouvrages de psychologie moderne surtout, encyclopédie, etc. Et lisez ce que veut dire l'identification du sujet avec l'objet. Sujet, vous êtes. Tout ce qui n'est pas vous, c'est l'objet de vous. Maintenant, il s'agit d'identification à l'objet par le sujet. Naturellement, si on dit identification avec l'objet, ça veut dire que c'est le sujet qui s'en occupe. Alors, c'est d'une gravité transcendante, l'identification. Tous les problèmes de la folie et tous les problèmes de la criminalité sont des problèmes essentiellement d'identification avec l'objet. Pas autre chose. Et le point de départ de ça, c'est cette simple image ici, le croissant de la Lune, le cercle du Soleil, mais remarquez qu'il n'y a pas d'espace de séparation entre eux. Ils sont un, ou ils sont absolument juxtaposés. Là, nous avons quoi? Nous avons l'identification de l'être du sujet avec son objet, la Lune. C'est l'identification. L'identification. Moi, pour moi que c'est une unité. C'est une unité. Quand il y a une unité pareille, quand vous êtes identifié, pensez bien à ça maintenant. Si vous n'y avez jamais pensé, ça va vous ouvrir des portes extraordinaires. Quand vous êtes absolument hypnotisé par votre objet, qu'il vous fascine, voilà le mot. Voilà le secret de magique de la fascination dans son sens étymologique et radical. Lorsque ceci vous fascine, vous savez très bien que pendant que ça vous fascine, vous pouvez être occupé à rien d'autre. Rien d'autre ne vous entre dans le cerveau, dans la tête. Rien d'autre n'entre dans votre organisme même. Que toutes les énergies psychiques et physiologiques sont concentrées dans l'acte de la fascination. Voilà l'identification du sujet à son objet. Voilà le cas extrême de l'hypnose, par exemple. L'identification. Voilà le cas extrême de la folie. Nous sommes des êtres humains qui avons acquis le droit, à force de pleurs et de douleurs et d'expériences variées, depuis des temps indéfinis, avons acquis le droit de ne plus être absolument identifiés à notre ambiance, à nos objets. Notamment, vous me direz, mais donnez-moi un exemple pratique de ça, je vais vous en donner un tout de suite. Et un qui est formidable. L'existence. L'existence, c'est l'existence. Pas besoin de parler davantage. Mais qu'est-ce qu'on entend par là, au fond? Remarquez ceci. Vous vous dites vivant. Bon, vous savez vivant. Et vous dites, je dois ça à l'existence, j'existe. Mais est-ce que, quand vous dites j'existe, c'est pas la même chose que de dire je suis. Ah non, c'est pas la même chose. Parce qu'on dit, j'ai l'existence. J'ai l'existence. Je suis et j'ai une existence. Et dès que vous introduisez l'auxiliaire avoir, vous entrez justement dans le monde qui est le pont qui vous mènera, si vous vous poussez dans cette voie, à l'identification à l'objet qui est de l'autre côté du pont. Et alors, vous ne pourrez plus traverser le pont, et à ce moment-là, vous êtes rentré dans le sein de votre mère, pour parler la langue psychanalytique, vous êtes rentré dans le sein de votre mère totalement, ou alors vous n'avez pas pu vraiment vous en sortir, et vous êtes encore dans un état infantile qui est d'autant plus frappant et intolérable que vous êtes un être humain, que vous êtes un être déjà très formé, dont le principe masculin, chez la femme comme chez l'homme, est déjà très en mouvement, très en avantail, très organisé, alors à ce moment-là, un mouvement de retour, d'identification à votre objet, n'est pas seulement impardonnable, il est morbide, il est pathologique et il vous conduit à la folie. Je continue. Demandez-vous ceci, que nous demandons tous. Suis-je parce que je dois quelque chose, parce que je reçois quelque chose de l'existence qui est toujours autour de moi. L'existence qui vient à mon corps, l'existence qui m'est donnée par l'air, par la lumière, par tout, enfin l'existence. Est-ce que l'existence est la chose qui compte? Est-ce que telle expérience de ma vie, alors l'expérience elle-même, le mot expérience, comme le mot existence, la préfixe ex, qui veut dire dépendre de l'expérience. On pourrait parler de l'expérience aussi. L'expérience, quelle qu'elle soit, remarquez-la, vous faites une expérience. Vous dites, j'ai une expérience. Voilà le verbe avoir. Vous ne dites pas, je suis une expérience. Oh non. Vous dites, j'ai une expérience. Et sitôt que vous avez dit ça, vous constatez à quel point c'est l'expérience qui vous a. C'est elle qui vous a. Le danger est là. C'est que l'expérience va vous posséder, vous, qui doit être toujours le maître de l'expérience. Si vous n'êtes pas le maître de l'expérience, vous êtes identifié à l'objet de l'expérience, donc à l'expérience elle-même. J'aime un être humain. Je connais pour cet être humain, disons, un très grand, un très vivant amour. Je ne le qualifie pas autrement pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Un très vivant amour. Voilà l'objet. Voilà l'objet de moi. Voilà l'objet qui produit cet effet sur moi. Je suis maintenant dans un rapport nécessaire qui va s'appeler un rapport d'expérience. Or, maintenant, est-ce que cela, c'est le tout de moi? Est-ce que je suis tout dans cet être que j'aime? Est-ce que ce n'est pas le miracle qu'il y ait un rapport entre moi et cette personne, qui est encore plus grand que moi et cette personne? Et est-ce qu'au fond, je ne garde pas toujours, essentiellement, ce qu'on appellera brutalement le « quant à soi » Est-ce que je ne resterai pas toujours moi-même, en face de moi-même, à me dialoguer moi-même sur l'expérience formidable que je fais d'aimer un autre, d'aimer un homme? Autrement dit, vos 12 maisons astrologiques sont 12 champs d'expérience qui, toutes les 12, vous tentent tout le temps de vous identifier à l'objet qui s'offre dans ces maisons, ou à la suite du jeu de vitalité que vous avez échangé avec votre objet dans un libre jeu de distinction de lui et de retour à lui, cette navette entre l'expérience et l'être vous fait grandir par l'expérience sans vous engouffrer dans l'identification avec l'objet qui est la mort de vous-même. Tout ça représente là. Tout ça est représenté dans ce qu'on appelle la nouvelle lune. C'est l'identification. Il ne le faut pas. Rien n'arrive dans l'identification. Puisque l'intelligence humaine ne peut pas être autre chose que ce qui monte en nous le moment où nous constatons que nous sommes indépendants de l'expérience, de l'objet de l'expérience. Non pas que nous en sommes détachés, jamais. Nous en avons besoin. Mais il y a un dialogue. Et si vous ne faites pas un dialogue avec vous-même, savez-vous que vous êtes fou? Que c'est la norme, le premier critère de la folie, c'est que vous êtes incapable de vous parler à vous-même. Il n'y a pas de réponse à vous-même. Voilà le Gémeaux. Les deux Mercures qui se parlent. Les deux enfants qui se parlent dans la mythologie. C'est celui qui est péniblement obtenu. Calvaire des existences. L'identification. Or, maintenant regardez, ceci s'est déplacé, il est là. La lune est là. Mais entre ceci et la lune, il y a ces rayons. Ceci marque ce qu'on appelle la distinction. Ceci se distingue de cela par les rayons. Ici, ceci ne se distingue pas de ça, c'est l'identification. Ici, ceci ne détache pas, mais se distingue du rayon, de l'ordre, de la lune, et c'est les 12 maisons astrologiques immédiatement. Et ce sont les 12 ponts ou rapports entre ce qui est tout le temps devant vous mouvant et ce qui en vous est fixe. Et ce rapport entre le mouvement et le fixe, ce rapport en vous-même, entre ce qui au fond de vous ne bouge jamais, et tous les objets qui passent devant vous, tous les objets auxquels vous répondez quelquefois intensément, et il le faut, toujours quand même, en retenant toujours le droit de revenir, quand vous allez là, le droit de revenir à vous. Parce que si vous allez là et que vous ne revenez pas à vous, vous êtes identifié à votre objet. Si vous revenez à vous, vous ne l'êtes pas identifié, mais vous avez acquis quelque chose par l'union avec votre objet. L'union, il faut pour l'union deux. Dans l'identification, il n'y a qu'un. Or, la mystique de la magie noire comme de la magie blanche, mais dans le sens inverse, et pour l'instant, celle que nous expérimentons le plus facilement, hélas, la mystique de la magie noire, c'est l'identification à l'objet qui est plus petit que nous. C'est donc la perte, ou l'apparence de perte, car nous ne pouvons plus la perdre dans notre état actuel d'évolution, l'apparence de perte du droit d'être vous-même face à votre objet. Que nous soyons, c'est le drame de la vie. Nous dépendons les uns des autres. Mieux que ça, nous dépendons de ce qui n'est pas nous. Nous dépendons. Nous sommes nous-mêmes. Mais enfin, pour nous connaître nous-mêmes et pour croître, il faut qu'il y ait les autres. Et là, du même coup, c'est une nécessité, c'est une joie, c'est aussi un risque. Dans ce jeu-là, tous les pièges sont tendus, aussi bien que toutes les opérations d'élévation. Le piège, c'est de revenir de cette position à celle-là, de faire plier tout ceci, d'annuler tous ces rayons et de sombrer de nouveau dans le sein de la mer. Tout le jeu de la vie, c'est d'établir ces rayons. Et c'est l'intelligence humaine, c'est ce qui germe en nous lorsqu'on peut dialoguer avec son objet. On observe bien que dans l'état d'hypnose, on ne dialogue pas. Le sujet ne dialogue pas. Il est en automate. Et dans la folie, le fond de la folie, c'est l'automatisme. Il ne se parle plus à lui-même, il n'a plus de point de repère parce qu'il s'est identifié à son objet. La seule, vous demandez, vous imaginez bien, demande des heures d'analyse, mais je vous le donne si vous n'y avez jamais pensé, parce que c'est fondamental à toute la théorie du bien et du mal, à toute la théorie de la mystique, à toute la théorie de l'univers. Nous pouvons l'expérimenter directement dans l'alambic de nos natures actuelles. Et que ça va être fondamental pour la compréhension du poisson, du Neptune et du Pluton. Je continue ça maintenant. Alors je passe à ceci. Et vous voyez que ceci représente l'orbite de la Lune, comme ici. Ceci, c'est l'individu. Et voici la limite de son champ d'expérience. Voici ce qui lui est offert pour grandir et non pas pour se perdre dedans. Quand l'embryon dans le sein de sa mère se refuse à grandir et que le sein de la mère, la matrice en train d'absorber l'embryon, vous comprenez que c'est l'inversion de l'évolution, c'est l'inversion de la croissance. Voilà l'action plutonienne par excellence dans sa forme maxima. La voilà dans sa forme maxima. Alors, croix cardinale, premier axe, c'est le développement de l'individu. L'individu, c'est le soleil. Pour développer le soleil, qu'est-ce qu'il faut? La lune. Pour développer ça, il faut ça. Pour développer ça, car ça, ça marque le développement. Plus il est loin, plus il est loin de la lune, plus il est grand. Plus elle a servi son rôle, plus elle est exaltée. Alors, pour avoir ça, il faut avoir le soleil et la lune. Pour marquer la proportion de grandeur de l'être en vous, de l'individu, qui ici était tout petit et son objet était immense. Ici, l'objet est tout aussi immense, mais lui est beaucoup plus grand par rapport à l'objet. Il est en train de grandir. Et là, pour marquer que ceci, pour atteindre la sommité de l'individualité, c'est-à-dire pour n'être qu'un soleil entièrement, pour n'avoir plus moyen, pour n'avoir plus besoin d'avoir recours à des expériences relatives pour développer tout ce qui est potentiel en vous. Il faut que le soleil ait couvert le champ entier, ait absorbé même la lune. Il faut l'absorber, la lune. Dans l'analyse astrologique et psychologique, sachez bien que la lune dans votre thème est une chose que vous devez absorber. Vous, le soleil. À l'intermédiaire des attributs qui sont du soleil, tous les planètes sont du soleil, ils ne sont pas de la lune. Ce sont des attributs solaires, ce sont des fonctions solaires. Leur besogne est essentiellement absorber la lune et l'annexer et se substituer à elle. C'est marqué dans le fameux triangle équilatéral, la part, c'est la partie acquise de l'entier. L'entier ici serait maintenant l'ensemble du monde humain. Et le reste, ce qui est marqué par la lune, c'est la partie, le reste, ce qu'on n'a pas encore absorbé de l'entier. Et la part de fortune, c'est précisément le rapport entre la part qu'on a absorbée et la part qu'on n'a pas absorbée, qui appelle le reste. C'est ça la part de fortune. Et voilà pourquoi Saturne préside le grand triangle équilatéral, parce que si lui est satisfait, alors les deux se maintiennent en équilibre toujours, et ça permet toujours au Soleil de grandir et de manger le reste. Cette fonction qui est fondamentale dans la vie, elle ne se discute pas, c'est-à-dire on n'ergote pas dessus. Les ergoteurs là-dessus ne connaissent non rien, ils n'ont jamais donné de la peine d'observer le phénomène psychologique de notre âme et tout le mécanisme psychologique de notre âme. Ça ne se discute pas, ça doit s'étudier et on est convaincu d'office. Mais ce même principe qui est toujours le principe de l'entier et la part, et la part et l'entier, va s'appliquer maintenant non pas seulement à l'individu qui est le soleil et à son expérience et la lune, il va maintenant annexer. Enfin, vous avez un grand amour dans votre vie. Bon. Mais vous êtes toujours vous-même. Parlons pas de ce que l'autre est, parlons de ce que vous êtes. Parlons pas de ce que l'autre devient, parlons de ce que vous devenez. Vous ne savez pas vraiment ce que l'autre devient. Vous n'êtes pas l'autre. Quelle que soit votre idée de l'autre, vous n'êtes pas l'autre, vous êtes vous. Vous avez une peine énorme de savoir ce que vous êtes. Vous avez une peine énorme de vous comprendre, la moitié du temps vous ne comprenez même pas quand vous croyez vous comprendre. Sachez seulement de vivre un peu ce que vous devenez à la suite et par cette expérience-là. Et vous constatez que si cette expérience arrive à un terme, quel que soit le moyen du terme, ici, le rapport n'est plus en fonction avec votre objet. Il reste toujours que vous êtes. Et il reste que vous avez vécu cette chose. Vous l'avez vécu. C'est donc une partie de vous-même que vous avez découvert, que vous n'auriez jamais connue sans elle. Et c'est une partie de vous-même que vous avez acquise, car elle était partie du domaine de votre champ d'expérience marqué par les 12 maisons de votre tête. Donc c'est une partie de vos maisons que vous avez mangées. C'est une partie des maisons que vous avez annexées, qui sont devenues partie du soleil maintenant. Dorénavant, on ne pourra plus jamais les enlever de vous. Voilà l'indivisibilité de l'individu. Voilà l'indissolubilité de l'individu. Du soleil, c'est le soleil, ça. Et vous voilà prêt maintenant à comprendre tous les sujets de cet arbre, toutes ces qualités de l'amour. Vous voilà prêt à les reprendre maintenant dans une perspective nouvelle, une puissance nouvelle à recevoir, enregistrer et donner avec un registre incomparablement plus grand, sans pour cela un seul instant perdre le dialogue avec vous-même où vous parlez de vous et de votre amour et ne les confondez pas. Identification. Voilà pour l'individu. Mais maintenant, passons au collectif. Car ce qui se passe pour l'individu avec l'individu va se passer du collectif au collectif. Et l'âme collective va jouer de la même façon avec l'âme collective de la France, par exemple. Et c'est une âme collective. C'est une collectivité, la France. On dit une âme parce que ça a quand même une morphologie. Parce que ça a quand même un dessin, une frontière. Cette collectivité connaît ses limites. Par conséquent, c'est l'âme de la France. Mais il y a l'âme de l'Allemagne. Il y a l'âme de l'Angleterre. Donc c'est une autre collectivité. Donc quand la France et l'Angleterre jouent ensemble, ou dialoguent ensemble, ou se heurtent ensemble, c'est que ce sont des âmes collectives qui sont en rapport. Ce sont des collectivités d'âmes. Mais alors déjà, chacune faisant partie d'un entier dont elles sont les parts. Deux entiers différents. L'âme de l'Angleterre est un entier dont les Anglais sont les parts. La France, c'est un entier dont les Français sont la part. Les Français qui sont morts, les Français qui sont vivants et les Français d'avenir. C'est la même chose. Toujours est-il que ce sont les parts de cet entier qui lui demeurent. Voilà pour la collectivité. Alors, dans le thème, maintenant, Uranus et Neptune et Pluton sont précisément les puissances, toujours les puissances de la collectivité. De la collectivité de soleil, d'être, dont votre soleil, dans votre soleil, n'est qu'une partie. Et lorsque vous avez développé votre solarité suffisamment pour être digne à votre majorité de signer vos propres chèques et vos propres contrats et d'entrer sans l'autorisation de vos parents dans les professions de ce globe, c'est qu'à ce moment-là, la collectivité vous a accepté à valeur égale au Père. Or, pour être accepté au Père, il faut passer par Saturne, le transformateur de l'individu, responsable du fait qu'il y a l'individu. Et qu'une fois qu'il a dit, vous êtes un adulte, vous êtes un individu unique et cette fois-ci complet en tant qu'individu, vous avez maintenant le moyen, le droit et l'obligation de participer à l'édification de la société, de la collectivité humaine. Collectivité invisible, encore infiniment plus grande que la visible, beaucoup plus dynamique. C'est tout le monde de ce que nous appelons l'inconscient collectif du scorpion. Mais alors plus loin que ça, c'est l'inconscient collectif d'Uranus. Tandis que nous allons plus loin que ça, maintenant nous avons l'inconscient collectif de l'univers, l'âme des arbres, l'âme des choses, l'âme de la planète, l'âme des astres, l'âme de l'atome. Et là nous sommes dans les poissons. Et l'individu que vous êtes a autant de droits d'être en rapport avec l'âme du monde, la collectivité universelle, que le corps de l'homme a le droit de se baigner dans la mer, non pas dans un lac, mais dans l'océan. Vous participez à la collectivité universelle d'abord. Vous en êtes issus. Nous sommes sortis de l'océan. Nous sommes sortis. L'individualité humaine graduellement est montée de l'infiniment petit, on appellera l'infiniment petit dans l'océan, dans le collectif, c'est-à-dire dans l'inconnu de nous, dans l'inconscient de nous. Il est sorti de là pour être ce qu'il est maintenant, et il va devenir quelque chose de plus grand, car c'est toujours cette loi de translation des valeurs, devenir quelque chose de plus grand. Où peut-il devenir quelque chose, l'individu, que dans le collectif? Il va l'accepter. Il va contribuer à sa croissance. Il est intéressé vitalement à cette croissance. Il va le soutenir. Et le mener. Comme l'un des siens. Et ça, c'est la puissance qu'on appelle celle des saints, celle des anges, celle de toute l'imagerie d'Épinal, de toutes les églises, de toutes les religions. Et l'échelle de Jacob, tout ça va monter à ce qu'on appelle la porte du ciel. Voilà ce que s'appellent les poissons. La porte du ciel par le haut, la porte de l'enfer par le bas. Ce signe étant celui de la genèse de l'espèce et de la genèse de toutes les formes vivantes de la Terre, c'est le signe de leur mutation également. C'est non pas seulement leur point d'entrée alpha, c'est leur point de sortie oméga, entrer par Pluton, sortir par Neptune. Et voilà pourquoi le signe des poissons, c'est le signe colossal qui nous donne l'étiage de la montée de chaque individu par rapport à la nouvelle collectivité auquel il est en droit d'appartenir et par rapport aux sollicitudes, aux soins qu'il va obtenir dans la société spirituelle sur la Terre ou en dehors de la Terre, peu importe. La société invisible est tellement plus dynamique que la société visible le jour où vous êtes en contact avec elle et qu'elle vous donne sa carte de visite. À ce moment-là, vous ne vous douterez pas un instant qu'il est beaucoup plus heureux pour vous d'être approuvé par la société, la collectivité invisible de votre âme, celle qui commande les racines de votre âme et qui les nourrit, Il vaut beaucoup mieux être en bonne harmonie avec eux qu'avec en bonne harmonie avec les gens qui sont autour de vous. Car les gens autour de vous ne sont que des marionnettes par rapport à ceux-là qui mènent les salles. Et ça, ce n'est pas un article de foi. Alors, je ne serais pas là aujourd'hui, je vous prie de croire, si je pensais que ça, c'était un article de foi de ma part. Pour moi, c'est une certitude absolue, c'est invariable. Mais notez bien ceci. Et là, je touche du doigt une chose vitale. Tout de suite, une chose vitale. Si le monde dit matériel, si la densité de votre corps, la première des expériences que fait l'unique en vous, si la densité de votre corps, ses limites, ses gaucheries, ses avantages, si toute l'extension de ça dans le monde autour de vous, les choses que vous touchez, les gens que vous voyez, les bruits que vous entendez, si tout ça vous paraît la seule réalité devant votre conscience, et qu'il n'y en a pas d'autre, est-ce que vous ne vous rendez pas compte qu'à ce moment-là, vous vous êtes identifié avec ça? Que c'est un cas d'identification? Et vous dites, enlevez ça, et moi je ne suis plus. Enlevez la lune ici. Et ceci dira, je ne suis plus s'il est collé à la lune. Mais enlevez la lune ici, quand il y a déjà tout ça entre le soleil et la lune, entre l'individu et le mouvant, entre l'individu et l'objet, et l'objet dit, le monde passe, je demeure. C'est tout le symbolisme de la croix, ce qui demeure parmi tout ce qui passe. Je demeure. Quand vous pensez que vous dépendez totalement de ce qui bouge autour de vous, vous êtes fasciné par votre objet. Mieux que ça, vous êtes identifié à votre objet, vous êtes tombé en plein dans la psychologie de votre démon, qui est lui le prince de l'identification du sujet à l'objet. Parce que Pluton, essentiellement, la fonction psychologique plutonienne, ce n'est pas autre chose que ça. La peur de la mort, et Dieu sait si je l'ai eu. La protestation contre la mort, et Dieu sait si je l'ai eu. Je parle en toute connaissance de cause. Pour moi, les gens qui trouvaient la mort une chose toute naturelle, même belle, autant vous dire qu'il y a quelques années, et dans bien nombre des années de ma jeunesse, je les trouvais, moi je les estimais comme fous. Pas fou, mais je veux dire un peu mou, amoli du cerveau. Mais autant vous dire que je me disais, mais ce sont tous des naïfs, des candides, ou bien alors ce sont des inconscients. C'était le grand mot. Décidément, ils ne savent pas. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas. Ils ne se rendent pas compte du drame de la vie. Ils ne se rendent pas du tout compte du drame de la vie. Ils sont des inconscients, par conséquent. Pas des ignorants, des inconscients. C'est une insensibilité. On ne peut pas discuter avec eux. Pour moi, la question de la vie et de la mort, c'était quelque chose de tranchant, c'était quelque chose de catégorique. Ça l'est encore dans un sens très radicalement. Et c'est un des creusets de ma, qui, dans lequel se forge ma métaphysique actuelle et toute mon astrologie aussi. Je me rends très bien compte que si j'ai donné à mon astrologie des précisions extraordinaires dans certains domaines, c'est parce qu'elle est constamment soumise au feu de la présence de la mort. Qui fait tout le temps ressortir en moi la présence de la vie. C'est dans ce contraste perpétuel que je n'ai pas un instant à perdre, à savoir à être jaloux de personne, à condamner personne. Je n'ai pas même le temps. Le drame de la vie est tellement extraordinaire, il est tellement ébouriffant, il est tellement en jaillissement perpétuel. Et tout ce que comporte ce jaillissement, c'est tellement extraordinaire, que j'en suis tellement dans l'angoisse de la chose et dans l'émerveillement simultané, je n'ai pas du tout le temps de penser aux petites affaires, aux misérables, aux petites misères quotidiennes de chacun de nous par rapport à l'un et à l'autre. Il n'y a aucune vertu là-dedans. C'est simplement une absorption dans le drame cosmique dont je fais partie. Vous direz maintenant, je fais un aveu momentané en passant, en 44, dans l'été de 44, j'ai fait une expérience extraordinaire que je n'attendais pas. Préoccupé, justement, j'entrais dans la véritable astrologie et tout s'abrassait dans ma tête et comment. J'étais loin de savoir bien les choses, mais quand même, j'étais bouleversé par le soleil. Le soleil qui me hantait, le soleil que nous voyons. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Pas pour nous.